Chazal explique que quand la Torah dit que celui qui pratique Molech, il profane le sanctuaire, le Mikdash d'Hachem, ici le Mikdash d'Hachem, c'est le peuple juif tout entier. Parce que si vous revenez à la définition qu'Hachem avait donnée quand il a donné l'ordre de construire le Mishkan, dans le Passouk, il est dit « Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et on explique que « Veshachanti Betocham » ça veut dire « Belev kol echad ve'echad ». Donc ça veut dire « Vous allez me faire un sanctuaire et ainsi je résiderai dans le cœur de chacun ». Donc le vrai sanctuaire d'Hachem, le vrai Mikdash, c'est le cœur de tous les Bnei Israël. C'est ça, Veshachanti Betocham. La construction physique du Mishkan, c'est comme si, bon, il fallait nous rappeler, mais qu'en vérité, le vrai Mishkan, c'est dans le cœur de chacun. Et par conséquent, quand ici, il ramène ici le Ravali, que la référence à la sortie d'Égypte qui est dite ici, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte pour être pour vous, Elohim, Ani Hashem, ça veut dire il y a donc les deux noms divins, ça veut dire que effectivement, on sait que par ailleurs, ce qui assure la Kdusha dans le clan d'Israël, c'est Shabbat et les fêtes, parce que grâce à cela, grâce au respect des halachot de Shabbat Yom Tov, on accède à cette kedusha particulière qu'il y a en particulier dans Shabbat, parce que c'est Me'en Olam Haba, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est donc l'occasion pour toutes les neshamot du clan Israël d'avoir une élévation, et c'est ça la référence tout à la fin. Donc de ce dernier chapitre 22, avant que on passe à la suite, et la suite justement, c'est que le pasouk dit Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël, ve'amarta alehem moadei Hashem asher tikru otam mikra'e kodesh elehem moadai. D'accord, c'est voilà donc mes rendez-vous avec le clan d'Israël. Asher tikreu otam, vous les proclamerez en quelque sorte. Vous allez vous-même déclarer ces rendez-vous avec Hachem. Vous allez dire que c'est les mikra'e kodesh, les fameuses saintes convocations. Donc pour un rendez-vous avec HaKadosh Baruch Hu. Et là, de nouveau, le Rav Vali explique que le mot « Asher Tikreu Otam » il est écrit « Chaser ». Si vous avez un Chumash devant vous, vous voyez que « Otam » est écrit « Aleph Tav Mem » final. Et il n'y a pas de « Vav » après le « Aleph ». C'est « Chaser ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, les choses dépendent du clan d'Israël lui-même. Asher tikreu, pas otam, mais asher tikreu atem. Parce que c'est vous qui allez fixer ces rendez-vous avec Hachem. Alors, on a déjà vu que dans ces rendez-vous, qui sont des rendez-vous avec Hachem, on pourrait penser que quand on a rendez-vous avec quelqu'un de très important, c'est la personne importante qui fixe le rendez-vous, et puis la personne moins importante, elle se plie à la proposition de la personne la plus importante. Et ici, on nous dit que ce sont les Bnei Israël eux-mêmes qui vont fixer le rendez-vous. D'habitude, je dis que quand on donne, par exemple, rendez-vous le 15 Nissan, ou le 15 Tishri, si vous voulez, pour Sukkot. Alors, le 15 Tishri, c'est Hachem qui a dit « ça sera le 15 Tishri ». Mais c'est nous qui disons quand va tomber le 15 Tishri, puisque c'est nous qui allons dire quand sera le premier Tishri. Puisque le premier Tishri sera défini comment? Il sera défini de la manière suivante. Deux témoins, deux personnes vont venir dire, nous avons vu la nouvelle lune. Ils vont décrire le mini croissant de lune qu'ils ont vu. On fera une petite analyse, une petite enquête pour savoir s'ils n'ont pas confondu ça avec un petit nuage. Si, comme on peut calculer quand la lune est visible, donc, on pouvait vérifier que c'était en tout cas possible. Et bon, alors, une fois qu'on a vérifié, le président, le chef du Sanhédrin va proclamer Mekoudash. Il va dire le nouveau mois est sanctifié. Et c'est ça, cette décision-là, qui fixe le nouveau mois. Ce qui fait que, finalement, c'est nous qui avons fixé, c'est Hachem qui nous a donné, c'est la première mitzvah qui nous a donné quand on était à Chodesh HaZelachem, encore en Mitzrayim. Et c'est cette mitzvah-là que nous avons reçue, et donc c'est, Hachem nous a confié, en quelque sorte, la fabrication de ce calendrier, nouveau calendrier qui commence en Nissan, etc. Et donc, il y a au moins une association. Hachem dit que ce sera le 15 et c'est nous qui disons quand sera le 15. Mais ici, c'est marqué « Asher tikru atem ». Le fichier « Akol taloui b'Israël atzmam ». Tout dépend des Bnei Israël. « Sha'elionim olchim bedavar ze acharei atartonim ». Parce qu'ici, dans le monde d'en haut, on s'en remet à ce qui est décidé dans le monde d'en bas. וממתינים עליהם בין לעניין הזמנתם, בין לעניין שמירתם, כמו שכתבו, כתבנו. Donc, on s'en remet sur tous les plans à la décision des Bnei Israël. C'est Bnei Israël qui vont dire quel jour il faut chômer, quel jour il faut se préparer, etc. C'est marqué dans le pasouk, « Elehem mo'adai », voici mes rendez-vous en quelque sorte. Chazal dit, En li moadim, ela elo. Hachem dit, je n'ai pas d'autre rendez-vous que cela. Chez Amelech ve'akala, noadim, ou mityahadim, ou misdavgim ba'em. C'est à ces moments-là, c'est les rendez-vous où le roi et la kala, et le roi et la princesse, donc le Hachem et le clan d'Israël, se retrouvent et s'unissent en quelque sorte. C'est pour ça que ça s'appelle moadim. Et tout ça dépend de nous, dépend des gens du monde d'en bas. Et donc, alors maintenant, il est toujours le fameux paradoxe, c'est qu'on parle des Moadim, mais la première chose qui est citée, c'est Shabbat. Donc, c'est un peu étonnant, puisque Shabbat, ce n'est pas un Moad, justement. Alors, il faut dire que le Shabbat, lui, il a une kedusha qui est indépendante des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils sont pour rien. D'ailleurs, dans la bracha qu'on dit dans la Amida, par exemple, de Shabbat, on dit Baruch ata Hashem mekadesh ha Shabbat. C'est bien Hashem qui est mekadesh, qui sanctifie le Shabbat. Ah, et nous, on a une mitzvah de sanctifier le Shabbat à son entrée et à sa sortie, c'est-à-dire de faire kiddush à l'entrée et Avdallah à la sortie. OK, mais nous, on a une mitzvah, que, c'est-à-dire que c'est comme si Hachem nous a invités, nous aussi, à même dans le Shabbat, de sanctifier le Shabbat, comme si ça dépendait de nous. Mais en fait, la chose ne dépend pas de nous. Donc ici, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, on peut se demander à quoi ça sert que je sanctifie le Shabbat, puisque le Shabbat, en réalité, si je ne le sanctifie pas, il est là quand même. Alors, vous savez, on a déjà vu ça. Il existe quelque chose qui ressemble. Tous les korbanot sont toujours la résultante d'une désignation par la personne qui apporte les korbanot. Même quand elle est obligée d'apporter les korbanot, la personne, elle va dans son étable, elle choisit un agneau, ou bien elle va acheter un agneau, elle dit, voilà, cette bête-là, elle va être mon korban, la hola que je dois donner, ou le korban khatat auquel je suis condamné en quelque sorte. Donc, c'est toujours une kedusha de paix, ça veut dire c'est une kedusha qui résulte de la parole humaine. Il y a bien entendu une exception qui est un korban particulier qui, lui, ne dépend pas de la parole humaine. C'est le bechor, l'animal premier-né de la brebis, le premier agneau qu'elle met bas. Celui-là, parce qu'il naît, comme premier, donc il est bechor, parce qu'il est né le premier. Ça ne dépend pas de ça dépend pas du tout d'une déclaration du propriétaire de la brebis. Pas du tout. Il est bechor parce qu'il est né le premier, c'est tout. Néanmoins, il y a une mitzvah qui nous a été donnée et qui dit que le propriétaire de la brebis, il va se tenir à côté de cette brebis qui est en train de mettre bas, et quand l'agneau sera né, il va dire « Areze bechor ». Cet agneau, il est bechor. Et s'il le dit pas, l'agneau, il est quand même bechor. Mais donc, là, on voit très bien, Hachem nous dit, bon, vous allez le dire, c'est vrai que c'est pas nécessaire, mais je vous donne ce rôle de le dire. Même dans ce cas-là où c'est pas une kedusha de paix, kedusha résultante de la parole, dans ce cas-là, vous avez quand même une parole à dire. Et donc là, la même chose, on peut dire dans le kiddush de Shabbat, on a quelque chose à dire, bien que le Shabbat, sa kedusha, elle soit déjà là. Donc, évidemment, ce que je fais, j'accepte la Kedusha. On est mekabel le Shabbat. Je reçois le Shabbat. Mais je reçois un Shabbat dont la sanctification est faite par Hachem. Ça, c'est par opposition à la sanctification des Yamim Tovim. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, mais je le répète. Là-bas, dans les Yamim Tovim, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans la Bracha. La bracha de Yom Tov, on dit Mekadesh Israël vehazmanim. Akadosh Baruch Hu sanctifie Israël qui à son tour sanctifie le temps, c'est-à-dire les zmanim, les moments de rencontre avec Hachem. Là, ça dépend d'Israël. Et ça dépend terriblement d'Israël, comme il le dit ici, parce que c'est pas le calendrier qui désigne les fêtes. C'est le fait qu'il y a eu une kedusha qui a été dite, décrétée par le chef du Sanhedrin au moment où il a accepté le témoignage des témoins qui ont dit « on a vu la nouvelle lune », donc il a accepté ce témoignage. Et là-bas, en plus, il est souverain, ça veut dire que si ça ne nous arrange pas, il le décale d'un jour. Mais tout dépend de cette désignation. Alors, et la fameuse question, c'est mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas de Rosh Hashanedrin qui va décider ça. Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce que le nouveau mois, il n'est pas commencé? Puisque, bon, d'accord, la nouvelle lune, on peut la calculer, on la connaît, etc. On peut calculer jusqu'à l'an 150 millions, on peut calculer, c'est une formule. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé d'établir le calendrier, le responsable de cela, c'était quelqu'un qui s'appelait aussi Hillel, mais qui n'est pas le grand Hillel, on l'appelle Hillel le deuxième. Lui, il a décidé, lui avec son Sanhedrin, ils ont décidé d'être Mekadesh tous les mois à venir jusqu'à l'an 6000. Donc, ils ont dit, voilà, nous, on est en position de pouvoir le faire et on est Mekadesh tous les premiers mois, donc tous les mois, tous les premiers du mois, donc tous les mois ont la Kedusha jusqu'à l'an 6000. Pourquoi ils sont arrêtés à 6000? Parce que, vraisemblablement, ils pensaient que d'ici là, le Mashiach serait là. Mais en théorie, ça veut dire que si jamais le Mashiach ne venait pas avant l'an 6000, alors il y aurait plus de Yamim Tovim, puisqu'il n'y a plus de calendrier, puisqu'il n'y a pas de Kedusha qui est dite par le Rosh Hashanedrin, donc il n'y a pas de calendrier, il n'y aurait plus, si ça devait arriver, il n'y aurait plus de de Moadim. Il n'y aurait plus ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Yom Kippour. Mais il y aurait toujours Shabbat. Parce que Shabbat, il ne dépend pas de d'une décision du tribunal. Et donc, c'est ça qui est dit ici. Asher tikreu otam, atem tikreu otam. C'est vous, les Bnei Israël, qui allez désigner ces Moadim, parce que tout dépend effectivement de vous, puisque tout dépend du calendrier que vous validez. C'est vous qui validez par cette décision du tribunal du Sanhedrin d'accepter le témoignage et de, en conséquence de ce témoignage, de déclarer Mekoudash et sanctifie le nouveau mois. On va avancer un petit peu. On va changer de chapitre. Je vais aller au Rav Dalet. Au début de ce chapitre-là. Dans le Pasuk Bet. Tzavet b'nei Israël. Donc, Vaidaber Hashem el Moshe el Emor. Tzavet b'nei Israël. Vi'ikru elecha Hashem en Zait. Zach. Katit la maror, la'alot ner tamit. Michutz la parochet, idut, be oel moed, ya'aroch oto, aaron, me'erevat boker, lifne Hashem tamit, pukat olam le dorotechem. Alam nora, teura, ya'aroch et anerot, lifne Hashem tamit. On a ici donc cette melacha, cette avoda, qui incombe au Kohen Gadol, en fait, d'allumer les nérotes de la menorah. Vous savez qu'il y avait donc dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y avait un rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait seulement le Aaron, et de l'autre côté, il y avait d'un côté le Shulchan, la table sur laquelle il y avait les fameux pains de propitiation, comme on dit, de proposition, et la menorah. Et la menorah était allumée tous les soirs par le Kohen Gadol. Alors, le Midrash dit à ce sujet-là que les Bnei Israël vont allumer, donc le Midrash Rabba dit Chalonot ayu le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait des fenêtres. Umehem aita ora yotse la olam. Et à travers ces fenêtres, la lumière du Beth Amikdash, donc la lumière de la menorah, sortait vers le monde. Les fenêtres, elles étaient construites à l'envers de ce qu'on fait ici, dans notre monde, où on fait en sorte que les fenêtres laissent entrer la lumière, là-bas, elles étaient faites pour laisser sortir la lumière. Donc, la lumière qui est allumée dans le Beth Amikdash, elle illumine le monde. Alors, j'ai vu Grabov, etc., il pose la question suivante. Il dit, pourquoi est-ce que, en plus du fait qu'il faille allumer les nérotes de la menorah, la Torah a ordonné spécifiquement qu'on amène Vikru Elecha Shemen Zait. Le clan Israël doit amener de l'huile d'olive pure, etc. Dans les autres korbanot, on dit pas qu'il faut apporter par exemple, les corbanotes du Tzibour, on dit pas qu'on doit apporter les corbanotes. On parle que de la hakrava, du fait qu'il faut approcher les corbanotes. Mais on te raconte pas qu'il faut les amener de la bergerie au Beth Amikdash. Pourquoi on nous parle ici du fait qu'il va falloir amener de l'huile au Beth Amikdash pour pouvoir allumer les nérotes? Pourquoi tout à coup on s'occupe de ce qui est simplement des problèmes d'intendance, semble-t-il. Mfarchim se pose aussi la question, pourquoi la Torah nous raconte de nouveau cette histoire dans Parchat Emor? On a déjà vu tout ça dans Parchat Tetzaveh. Dans Tetzaveh, il est déjà très clairement dit cette histoire de Ve'ata Tetzaveh Bnei Israël, toi, Moshe Rabbeinu, tu donneras l'ordre aux Bnei Israël, Vikru Elecha Shemen Zayit Zach, Katit la Maor, la Alot Ner Tamid, Yarochoto Aaron Uvanav, Merebat Boker, Lifne Hashem, Pukat Olam Dorotam. Pourquoi la Torah, elle répète? Alors, il propose d'essayer de répondre à cette question, à ces deux questions de la manière suivante. Il dit que quand, d'abord, il faut réfléchir au fait que Chazal, sur la dlaka de la menorah, ils disent Michutz la paroch et haedut be'oel moed. En dehors, à l'extérieur du parochet, à l'intérieur de ce fameux rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, côté Kodesh. Donc, Edutu, le Chol Ba'olam, Shashchina Shora B'Israël. Chazal disent qu'il y a là un témoignage pour tout le monde, Chol Ba'olam, tous les gens qui arrivent dans le monde, chez Ashrina Shora B'Israël, qui a présence divine dans le clan d'Israël. Alors, la première question, évidemment, qu'on pose, c'est cette menorah, elle brûle où? Elle brûle dans le Kodesh. C'est une menorah avec une petite flamme. Comment cette menorah pourrait-elle témoigner de la présence divine dans le clan d'Israël, au monde entier, le Kol Ba'e Olam. Il n'y avait que des Kohanim qui la voyaient, cette menorah. Elle n'est pas à un endroit, elle n'est pas exposée sur la tour Montparnasse pour qu'elle soit vue par tout le monde dans Paris. On ne la voit pas. Et en plus, même si on la voyait, en quoi est-ce que c'est une preuve qu'il y a présence divine dans le clan d'Israël? Il y a de la lumière là-bas. On a vu qu'il y avait de la lumière. Okay. Ça prouve quoi? Il n'y a aucune édoute qu'il y a présence divine dans le clan d'Israël avec ça. Donc, en fait, on est obligé de dire, on est plus ou moins obligé de donner une réponse, mais une réponse, ce serait de dire qu'en réalité, la lumière dont on parle, c'est pas la lumière de physique de ces nérotes que le Kohen Gadol allume. Celui-là, cette lumière physique, elle n'est vue qu'à l'intérieur. Mais la lumière dont on parle, celle qui témoigne de quelque chose, c'est une lumière spirituelle qui n'est pas attachée à un lieu particulier. En fait, si quelqu'un profite de la lumière, il ne diminue pas la lumière en question. Donc, les nérodes de la menorah, elles parlent d'un shefa, d'un flux spirituel sans limite. C'est parce que c'est réminiscent du fait qu'effectivement, un flux spirituel, il n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. C'est un flanc, s'il est spirituel. dans le Hamek Davar, donc dans le Siv, il explique que ce flux-là, spirituel, c'est Koach Achidush Ve'apilpul Benimud HaTorah. Ce flux-là, spirituel, c'est quoi? Concrètement, dit le Netziv, dit le, donc Hamek Davar, il sait quoi? C'est justement la puissance qu'Hachem a donnée au Chachamim d'être Mechadesh, c'est-à-dire de renouveler l'enseignement et de développer cet enseignement de la Torah. La lumière de la Torah, c'est ça le but du Mishkan, c'est qu'il y ait présence divine. Comment c'est la présence divine? C'est justement que dans le cœur, puisqu'on parle de ça, dans le cœur des Bnei Israël, ils sont capables de produire de la Torah. C'est ça le Inyan. Alors, cette lumière, en vérité, cette puissance qu'il y a capable de produire de la Torah, elle repose sur deux du mobilier, deux parties du mobilier du Mishkan ou du Beit HaMikdash. Effectivement, la menorah, mais aussi le Aaron HaKodesh. C'est le Aaron HaKodesh. Bien sûr, ces deux n'ont pas la même fonction. C'est pas deux fois la même chose. Le Aaron, il vient pour... Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron? Dans l'Aaron, il y avait les Luchot, les brisures des premières Luchot, donc les deuxièmes Luchot, les brisures des premières et un Sefer Torah. C'est un Sefer Torah tout à fait particulier, parce que c'est un Sefer Torah qu'on ne lisait jamais. Mais il était là parce que si un jour il pouvait y avoir, il arrivait que dans le clan d'Israël il y ait une contestation quant à la justesse, la fidélité d'un Sefer Torah, on dirait mais c'est comme ça qu'il faut écrire ce mot, là, etc. Alors on pourrait aller regarder, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui une fois par an entre, il pourrait aller voir dans ce Sefer Torah, qui est le Sefer Torah que, a priori, Moshe Rabbeinu a écrit, il pourrait aller voir comment c'est écrit et trancher dans la dispute en question. Mais en tout cas, le Aaron, il a à voir avec la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Donc, maintenant, il y a pas encore avec ça, on n'a pas du tout encore le ignat de chidouche et de développement de la Torah qui permettent à des hommes de faire ce développement. C'est pour ça qu'il faut ici toute cette force qui va produire le Talmud, que ce soit tous les Talmuds, celui de Bavli, l'Yerushalmi, et en vérité, tous les écrits, en fait, de cet ordre. Ça, c'est une force qui a été donnée grâce à la menorah. Dans la menorah, comme on dit, sont incluses les sept fameuses sciences. Dans l'Antiquité, on considère qu'il y avait sept sciences principales. Toutes les forces qui permettent de développer la Torah. Tout ça, c'est inclus dans la menorah. Donc, pour revenir à notre sujet, dans le Midrash, il est dit, ce fameux Midrash que je vous ai lu, là, dont je vous ai lu le début, « Chalonot ayu le Beit HaMikdash ». Il y avait des chalonot, il y avait, dans le Beit HaMikdash, il y avait des fenêtres. Donc, c'est écrit dans le Sefer Melachim, effectivement, Vayas, la Baït, Chalonej Kofim Atumim. Amar Bagmara, dans la Gemara, on dit, Shkufin mi Bifnim, Atumim mi Bachutz, Lo Leora Anitzarif. Elles ne sont pas construites comme des fenêtres qui ont pour but de faire laisser entrer la lumière. Mais Hachem dit, j'ai pas besoin de la lumière extérieure, par contre, ni de ce que vous allumez. Simplement, je nous ordonne de faire rayonner symboliquement. Nous, on fait un allumage, mais après, il y a toute la puissance de rayonnement du flux des bontés divines sur le monde. Alors, on nous dit qu'il y avait des chalonot à cette fin-là, pour que ça puisse sortir. Et donc, comme on a vu, la lumière, elle venait de là, elle sortait dans le monde. Et le Midrash continue, il dit, Rabbi Shimon ben Yoatzdak Shaal, Rabbi Shmuel ben Nachman. Rabbi Shimon a demandé à Rabbi Shmuel, il a posé la question, mais Echan aura Yetzé Leolam. D'où est-ce que cette lumière, elle sort vers le monde? Il lui a dit, Nitatef HaKadosh Baruch Hu Kesalma, Veivik Kola Olam Kulo Miziv Adam. HaKadosh Baruch Hu s'est entouré d'une espèce de robe, d'un vêtement, et il a éclairé, illuminé le monde entier de l'éclat justement de sa gloire divine, de la gloire divine. C'est clair qu'on ne parle pas ici de la lumière des nérodes de la menorah, la lumière physique des nérodes de la menorah. On parle d'une lumière spirituelle. Donc ça veut dire que, en plus de la Hashrat Hashchina, la présence divine, qui est visible dans le Beth Amikdash, grâce à la menorah, la menorah avait aussi une autre fonction. Elle représente l'expansion, donc l'émission de la lumière spirituelle dans le monde, dans tout le clan Israël, dans tout le monde pour Israël. Et c'est de ça qu'on dit que c'est visible, le Chol Ba'e Olam. Ça, c'est un témoignage qui a une Shrina Shora B'Israël. C'est-à-dire, d'après ça, le témoignage c'est de qui a présence divine dans le clan Israël, c'est la capacité qu'Hachem a donnée aux Chachamim de fabriquer de la Torah. D'être mechadesh et d'être mefalpel, ça s'appelle de grand discuter dans, et renouveler l'enseignement de la Torah. Alors, on sait que dans les lumières en question, il y en a une qui jouait un rôle particulier qui s'appelle Ner Maharavi, la lumière de l'Ouest, c'est-à-dire celle qui correspond, la Shrina, elle est du côté de l'Ouest. Donc là, en fait, c'est dans la menorah la lumière centrale, comme Chazal nous enseigne. Et la Gemara, elle demande là-bas dans Maseret Shabbat, elle demande « Mai Edut ». Ça veut dire que c'est « Edut », il y a un témoignage. En quoi est-ce un témoignage? « Amarav Zuner Maravi ». Le témoignage, c'est celui qui est fourni par le fameux Ner Maravi. Shenotel ba shemen kimidat chavrotera, umena ayamadli kuba ayamesayem, v'achen kivan shelchol hashpa ruchanit drusha itiruta deletata, ve'ula mitzad am Yisrael, af hashpa zu haita mitgala lefi ma'asem shel Yisrael, u'kfi shekatav Rashi, v'chol zman shehayu Yisrael chavivin, היה דולק כל היום, והיינו עדותה. וכן אמרו ביומה, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה נר מערבי דולק, וכאן ואילך, פעמים דולק, פעמים קבע. הרי שהשחת השכינה שעליה העידה המנורה, באה מכוח ישראל, ותלויה הייתה במעשיהם. וכסק הוא נודי לה, נודי לה שוס פיוונט, נודי כ... Le Ner Maharavi, il avait ceci de spécial, vous connaissez probablement, qu'on mettait dans les sept branches, on mettait la même quantité de combustible, la même quantité d'huile d'olive. Mais le Ner Maharavi, quand les Bnei Israël se conduisaient bien, du temps de Shimon HaTzadik, etc., le Ner Maharavi, qui était celui par lequel on commençait, etc., ce nerf Mahavi, il brûlait bien au-delà de toutes les autres nerfs. C'est-à-dire, il brûlait de façon totalement miraculeuse, bon, parce que ça dépassait tous les critères physiques. Physiquement, il n'y avait pas plus de combustible que dans les eaux, donc il n'y avait pas de raison que ça brûle plus longtemps. Et ça brûlait plus longtemps. Et c'était ça le témoignage qu'il se passe quelque chose de particulier, il y a une présence divine qui fait que ça ne brûle pas de façon purement physique, mais qu'il y a autre chose qui se joue là. Et ça va dépendre évidemment de la conduite des Bnei Israël. Quand les Bnei Israël, ce qu'on disait bien, quand il y avait Shimon HaTzadik, alors ça brûlait toujours, le nerf Mahavi brûlait toujours jusqu'au lendemain matin, jusqu'au moment où il fallait de nouveau, jusqu'au soir, où il fallait nettoyer et rallumer pour la nouvelle journée, la nouvelle nuit et journée. Après, ça dépendait des Bnei Israël, des jours, quand ce qu'on disait bien, alors effectivement, le nerf Mahavi brûlait au-delà des autres nérotes, et sinon, non, il n'y avait rien de spécial. On ne voyait rien. Alors, il s'agit évidemment d'une lumière spirituelle. Mais une lumière spirituelle, ça veut dire c'est une lumière qui vient d'en haut. D'accord. Mais depuis Pessah, depuis le passage de la sortie d'Égypte, pardon, HaKadosh Baruch Hu veut, il a même voulu, nous a même aidé à ce que ça se passe, même au moment de la sortie d'Égypte, même quand les choses sont itaruta de leila, par l'éveil d'en haut, ça veut dire tout est fait par Hachem, même dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une petite itaruta de l'etata, un éveil d'en bas. Il faut que les hommes fassent quelque chose. Hachem ne nous demande pas grand-chose, nous faisons une partie des choses et Hachem fait tout le reste. Donc il fallait l'allumage de la menorah pour qu'il y ait cette lumière qui illumine le monde. Elle a rien à voir, si on peut parler comme ça, avec la menorah, sauf que la menorah nous donne l'impression que nous y sommes pour quelque chose, et parce qu'Hachem veut que nous y soyons pour quelque chose, alors il nous fait faire des gestes qui sont des gestes d'allumage, etc. Et puis ça commence par un nerf Mahavi qui dépasse le temps de lumière que normalement le combustible devait assurer, dépasse largement, et puis après, c'est tout un flux qui illumine, qui inspire tous les Bnei Israël pour produire de la Torah. Alors, cette expression de « il faut amener quelque, il faut qu'on fasse quelque chose », comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que on doit amener l'huile au Beth Amikdash, l'huile de la menorah, pour que cette lumière de la menorah éclaire tout le clan Israël. Les Bnei Israël ont une mitzvah. Amenez vous-même l'huile, en fait. Vikru elecha shemen zayit zar. Les Bnei Israël apporteront à Moshe du shemen zayit zar. De telle sorte qu'il y ait vraiment une it'aruta mikoacham Israël kulo. On veut que tout le clan Israël ça participe, en quelque sorte, à cette mitzvah-là. Donc c'est ça, c'est en cela que il y avait une spécificité de l'allumage des nérotes par rapport aux autres korbanotes. Les autres korbanotes, on n'a pas demandé, même quand il s'agit de, je parle que des korbanotes sibour, au nom du clan Israël, on ne demandait pas que le clan Israël amène les bêtes. Maintenant, d'après ça, on comprend que on va pouvoir un peu expliquer le pourquoi des choses, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette histoire de Adlakat Anerot, l'Adlakat des Nerot de la Menorah, pourquoi est-ce que c'est juxtaposé avec la Parasha des Moadim? Pourquoi c'est juxtaposé avec ce qu'on a vu? On a vu que ça commençait le Shabbat, puis ensuite les Moadim, puis après la Menorah. Pourquoi c'est juxtaposé? Alors, il va y d'abord Moshe et Moadé Hachem El Bnei Israël. Alors, ça c'est ce qu'on a vu. Pourquoi maintenant? Kivan Shegam Yesod Inyanam Shela Moadim ou Ashpat Ashrina Michutz le Kotle Betamigdash. Shekin Hashefa Shayum Mekablim Am Israël Baalotam La Regel. Aya מלווה אותם במשך כל ימות השנה, אף לאחר שעזבו את מקום המקדש ושבו לביתם. זאת אומרת, לאברהם il ramène ça, dans la תפילה de ועשיינו השם אלוקינו, הסביר לך את מועדיך, כי היא פרטית לתפילה de ראש השם, de מועדים, שהוא מלשון מסע בני קראת, ועשיינו, comme la charge de porter qui incombait à la famille de Kehat, qui portait le Aaron, Plomar, Atineinu et Birkat Moadecha. Charge-nous de la bracha des Moadim. C'est quoi? C'est cette idée que dans les Moadim, vous vous souvenez, donc, par Moadim, on entend Pessah, Shavuot, Sukkot. Ces trois fêtes-là, elles ont en commun qu'il y a une mitzvah d'Aliyah la Regel. Il y a une mitzvah de monter lors de ces fêtes-là, de monter à Yerushalayim pour se présenter devant Hachem. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. On se présente devant Hachem pour voir, comme on dit, et être vu par rapport, par Hachem. Et le Avudraham, qui est un des grands rishonim qui explique donc la tefila en particulier, il explique que quand les Bnei Israël allaient pour être vus par Hachem, il y avait une espèce de bénédiction qu'ils prenaient avec eux toute l'année. Toute l'année, ils étaient inspirés par l'expérience qu'ils avaient vécue de monter à Yerushalayim, d'être vus par Hachem. Et c'est ce qu'on demande dans la prière. Assieds-nous, charge-nous de la bracha des Moadim. On est venu se faire voir par toi, c'est-à-dire recevoir tes bénédictions. Charge-nous, on demande, effectivement, charge-nous, mais là sur nous de cette sorte qu'elle nous accompagne en permanence, toute l'année. Et donc, lui, il veut dire ici, Rav Hofstetter, que c'est la raison pour laquelle il y a une smichut, c'est-à-dire il y a une juxtaposition de la menorah et de la paracha d'après, qui est la paracha de Lechem Apanim. Alors, la paracha de Lechem Apanim, c'est les fameux pains qu'on met sur le shulchan. Toutes les semaines, Shabbat, on changeait, il y avait 12 pains qui étaient posés sur la table, et on changeait ces pains chaque semaine. Il y avait une nouvelle série de pains. Ce pain, il était extraordinaire parce qu'on le mettait et il restait frais, chaud, etc., toute la semaine. Ça s'appelle Lechem Apanim. Là aussi, dans ces Lechem Apanim, c'est la bracha de la Parnassa. Sur le Shulchan, c'est la Parnassa. Donc, ça avait ceci de particulier, ces pains-là. C'est-à-dire qu'en vérité, tous les Kohanim mangeaient de ces pains. Ils en mangeaient un tout petit peu, mais ça était complètement rassasiant. Il n'y avait pas besoin d'en manger beaucoup. On mangeait, et d'ailleurs il y en avait très peu, parce que quand on partage entre tout le monde, il n'y en avait pas tellement. Mais en fait, la Hashpa'a, la satiété, enfin le c'était toute leur nourriture du fait de ce fait, dans la nourriture des Bnei Israël, elle avait cette caractéristique. C'est le Ramban qui le dit. Le shulchan sur lequel il y avait ces fameux pains, qui s'appellent lechem apanim, des pains à visage. Bon, c'était la forme C'était un pain tout à fait particulier, donc on reviendra un jour là-dessus. Et grâce à ce qui se passait avec ce que se jouait avec le Shulchan, il y avait un flux. Vous voyez, c'est la même chose. Il y avait le flux spirituel grâce à la menorah, et il y a un flux de bonté matérielle, de parnassa, de svia, de satiété avec très peu de choses, qui est la résultante du Shulchan. Donc, ces deux piliers, là, en quelque sorte, assurer le spirituel et le matériel dans le clan d'Israël. Rabbeinu Bechaye, effectivement, Valken nikra shulchan shakadosh baruch hu sholeach birchato belechem she'alav. Lui, il explique pourquoi un shulchan, pourquoi la table s'appelle shulchan. Shin lametchet, c'est shalach, c'est la racine d'envoyer. Donc, c'est par ce biais-là, Kadosh Baruch Hu envoie la parnassa, la bracha, donc, à travers les pains qui sont posés dessus, sur tout le clan d'Israël. Et donc, toute la nourriture que les bnei Israël vont manger, grâce à cela, elle va rassasier le monde entier. Donc on trouve que ce qui se passait dans la menorah spirituelle, cette lumière spirituelle, en fait, qui se répandait dans le monde entier. Ça se faisait aussi grâce au moment des Moadim. À ce moment-là, dans le Lechem Hapanim, il y avait une bracha qui, elle aussi, se répandait dans le monde entier. D'après ça, on peut expliquer pourquoi, dans les psukim qui parlent d'amener ces fameux pains, propositions, c'est marqué, il faut les amener, me'etz b'nei Israël. Ça doit venir des b'nei Israël. Sheken af ba'akravat lechem apanim. De nouveau, toujours ce même principe, même avec lechem apanim, même si en vérité la satiété, le fait d'être tout le monde est rassasié, etc., avec très peu de nourriture, c'est quelque chose d'absolument spirituel. Il faut quand même qu'il y ait des gestes concrets, qui s'appelle l'itaruta de l'etata, l'éveil d'en bas. Il faut que nous fassions quelque chose. Donc le clan d'Israël doit faire quelque chose, comme c'était, il faut amener l'huile pour la menorah. Et l'Alcher dit, l'Alcher c'est un des grands commentaires de Chumash, l'Alcher vivait à la même époque que l'Arizal et celui qui a composé le Hadodi, Shlomo Alkavetz, c'était les Mekoubalim, les Kabbalistes de l'époque de Tzfat. C'était aussi l'époque où vivait le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, il vivait aussi à cette époque-là. Aussi à Tzfat. Donc, grâce à cette, le Alcher dit, grâce à l'idée Itorut Maaseh Mitzvah, parce que il y a un éveil qui vient de ce qu'on fait les gestes de la Mitzvah, alors les lumières d'en haut, qui sont en fait, ces lumières, elles ressemblent, elles correspondent plus exactement au fameux, il y a 12 pains, et là-haut, il y a 12 lumières, si vous voulez, d'autres sources de lumière, d'énergie. Donc, et c'est ça qui donne le Shefa Bracha dans le monde, le flux des bontés d'Hachem dans le monde. Donc, c'est pour ça que c'est marqué aussi, le Dorot, marqué pour toutes les générations, comme ce qui est écrit sur la Menorah, Shalidei Maaseihem, grâce aux actions des Bnei Israël, alors toutes les générations vont être, au fur et à mesure, donc, bénies. Et c'est ce que le Sforno a dit, ce que j'ai cité avant, c'est si vous usez Aya le Dorot, que ce qui est dit là, a priori, c'est dit dans le contexte du Mishkan. Ça a l'air d'être quelque chose qui concerne le moment Mishkan, c'est le temps où il y avait le Mishkan, éventuellement le Tamigdash. Mais en fait, a priori, c'est surtout le Mishkan. Et le Sfono dit non, mais c'est toujours vrai. C'était pas seulement à ce moment-là, c'est toujours vrai. Ça veut dire, il y a toujours ce principe-là. Il faut le. Et alors, il se réalisait concrètement de façon analogue à ce qui se passait dans le Mishkan. Il y avait la même chose dans le Beth Amikdash. Mais maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, il y a toujours cette idée que pour que Hachem fasse les choses, si on peut parler comme ça, alors il demande que nous fassions, nous, de petites choses qui sont l'espèce de démarrage qui correspond à notre échelle, c'est à notre petite échelle. Nous faisons en petit, en quelque sorte, ce que Hachem va faire en très très grand. Mais il nous demande de le faire. C'est ça notre association avec Hachem. Si vous voulez, c'était déjà quelque chose que Moshe Rabbeinu avait dit à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas me faire le Mishkan, etc. Alors Moshe Rabbeinu a dit, mais comment c'est possible? Hashamayim, Shmei Hashamayim, lo echal kulo. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Et toi, tu veux que je fasse une résidence pour toi? Tu vas une résidence avec des petites choses. Quand c'est par rapport au monde, c'est même pas du pneu mobile, j'entends. C'est quoi? Alors, Hachem l'a dit, toi, tu fais ce que je t'ai dit avec tes bouts de bois, avec tes crochets, ton fil, etc. Et moi, je me débrouille pour résider là. Ça, c'est pas ton job. Moi, c'est mon job à moi de résider dans ce que je t'ai ordonné de faire. Toi, tu fais ça et moi, je résiderai là. C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Ça veut dire, il y a aussi cette idée qu'en permanence, nous devons faire des choses, même et surtout, il y a un grand principe, si vous voulez, qui, je crois, est une chose très importante par rapport à la situation dans le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce que, évidemment, on n'a pas, il n'y a pas dans le monde. De quoi subvenir à très long terme à la vie du monde. Il n'y a pas, c'est pas. J'ai lu récemment que si le monde, si les gens du, les, si le monde devait vivre à l'américaine, on aurait besoin de 5,2 terres. 5 terres, un peu plus de 5 terres. Et à la française, 2,8. J'arrive pas bien à comprendre la différence. Mais bon, en tout cas, bien sûr qu'on n'a pas assez à cause de la notion de finitude. Mais nous, on sait tout. Donc, du coup, toujours le problème, c'est il y a la finitude. Oui. Mais la Torah, elle nous dit très clairement lo amlecha, lo alecha amlecha ligmo. Personne ne te demande de finir la chose. Mais tu n'as pas le droit de ne pas commencer. On pourrait dire que c'est un peu frustrant. Je commence quelque chose dont je sais pertinemment que je ne pourrais pas le terminer. Oui, mais tu n'as pas le droit de ne pas commencer. C'est-à-dire, et même si tu ne sais pas, quand on dit je ne pourrais pas le terminer, je vois très bien qu'a priori, disons aujourd'hui, si on regarde la situation, ben on ne pourra pas terminer, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ton problème. Lo alecha amlecha ligmo. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Même si on aurait dû commencer plus tôt, de prendre des mesures, etc. OK. Mais maintenant, il faut faire ce qu'on peut faire. Après, on verra. On verra ce qui va se passer. Ce n'est pas dans nos mains. Et Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup plus d'imagination que nous. C'est-à-dire que même si nous, on n'est pas capable de penser les choses, elles peuvent se. On n'a aucune idée. Akadosh Baruch Hu. Là, maintenant, on vient de vivre des choses assez extraordinaires qui nous ont montré que ce qu'on pensait totalement impossible, c'est devenu possible. Avec un petit virus, des choses qui étaient impossibles sont devenues possibles. Qui est-ce qui pensait? Qu'est-ce qui a pensé qu'il y aurait un jour la moitié de plus de la moitié de l'univers, enfin, une population de l'univers confinée? C'est un non-sens. C'est quand même le cas. Et ça, c'est rien du tout. tout a changé. Plein de choses sont complètement bouleversées. Jusqu'à une guerre improbable, etc. Donc, Ita Ruta de l'Etatat. Arkadosh Baruch Hu dit, faites quelque chose. Moi, je fais le reste. Il faut avoir confiance en Hachem. Là-bas, il ne s'agit pas de. Bon, non, c'est une confiance parce que Arkadosh Baruch Hu, il a bien plus de solutions des problèmes que nous. Même si on n'arrive même pas à se représenter les choses, mais on ne se représente pas non plus comment la lumière inspire tous les rachamim qui produisent de la Torah, comment les jeté alechem, les lechem apanim sur le shulchan, ça garantit la satiété dans tout le clan Israël. Comment ça fonctionne? Personne ne le sait. C'est tout. Et confiance en Hachem. Hachem, t'as dit que tu fais ça. Comment Hachem va résider dans le tabernacle, dans le petit Mishkan? On n'a aucune idée. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas ton problème. Moi, je me débrouille. Si le projet d'Hachem, c'est que le monde doit continuer de vivre, ben, il va continuer de vivre. Si Hachem a décidé que ça allait s'arrêter, ben, ça s'arrêtera. Mais nous, on doit faire ce qu'on comprend qu'on doit faire, ce que la Torah nous ordonne de faire. OK, on s'arrête là. Je suis désolé là pour la technique, mais c'est une chose que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'est mis aux abonnés absents pendant un certain temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine.
Merci à vous.
Et bon.
Merci.
Bon Shabbat.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.